RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. En théorie, l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François pose un nouveau regard sur les personnes divorcées, remariées au sein de l'Église catholique. Mais elle a beau prôner plus de souplesse et d'accueil, cette question reste sensible et continue de faire débat. Alors où en est-on aujourd'hui? Quelle place pour les divorcés, remariés au sein de l'Église? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis et nous découvrirons dans la seconde partie à 10h le rôle des officialités dans les diocèses qui permettent notamment d'obtenir la nullité de mariage. Soyez les bienvenus avec vos témoignages et réactions. Êtes-vous concerné de près ou de loin? Que pensez-vous de la façon dont les personnes divorcées, remariées sont accueillies dans l'Église catholique et de leur intégration? Pensez-vous que la discipline actuelle soit satisfaisante ou bien elle a besoin d'être revue, mise à jour vis-à-vis des réalités de notre société? Et puis pensez-vous que le pontificat du pape François aura marqué un tournant en la matière? Pour participer, vous laissez vos messages dès maintenant par mail à l'adresse direct@rcf.fr, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Et puis bien sûr, on vous attend à l'antenne avec grand plaisir au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h. Je pense, donc j'agis sur RCF.
Avec Véronique Alzieux, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. En 2016, le pape François adressait aux catholiques du monde entier l'exhortation apostolique Amoris Laetitia, la joie de l'amour, suite au synode de 2014 et 2015 consacré à la famille. Ce document était très attendu et particulièrement ce qui concernait la situation des personnes divorcées, remariées ou engagées dans une nouvelle union. Car au cours des synodes, les évêques avaient soulevé la problématique de l'accompagnement des diverses situations familiales. Et en effet, ces points importants sont abordés dans l'exhortation du pape. L'article 298, par exemple. Les divorcés engagés dans une nouvelle union, écrit le souverain pontife, peuvent se retrouver dans des situations très différentes qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Un discernement personnel et pastoral approprié. Ces quelques mots ont ouvert des perspectives nouvelles dans l'accompagnement des divorcés remariés au sein de l'Église catholique, qui jusque-là était officiellement tenu à distance des sacrements et n'était pas censé assumer de responsabilité au sein de communautés, notamment paroissiales. Si en pratique ces règles étaient souvent contournées, il n'en restait pas moins que la discipline était clairement énoncée. Amoris Laetitia prend désormais en compte la réalité de millions de personnes. Mais pour certains, le texte ne va pas assez loin. Pour d'autres, au contraire, il porte atteinte à la ligne que l'Église catholique a toujours tenue et transige avec le monde. Où en est-on réellement? Comment les personnes divorcées remariées sont-elles accueillies dans les paroisses ou les mouvements? Ont-elles plus facilement accès aux sacrements? Et doivent-elles avoir accès aux sacrements? Le texte Amoris Laetitia va-t-il trop ou pas assez loin? C'est le thème de cette émission, Melchior.
Et on en discute jusqu'à 10h avec nos deux invités, Véronique.
Viviane Munier, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « Si tu savais le don de Dieu, parcours pour les personnes divorcées et remariées ». C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Artege. Nous accueillons également Patrick Lang. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes jésuite et vous êtes vous aussi auteur d'un livre qui s'intitule « Divorcés, remariés, de l'exclusion à l'intégration » paru aux éditions Fidélité, c'est-à-dire les éditions jésuites. Patrick Lang, pourquoi vous intéressez-vous à cette question des divorcés, remariés?
Bon, je m'intéresse à cette question pour deux raisons. La première, parce que elle concerne, comme vous le disiez, des millions de personnes et que beaucoup se sont éloignés de l'Église parce qu'ils ne pouvaient plus y trouver leur place. Et pour une deuxième raison qui est circonstancielle, c'est que l'évêque de Versailles a souhaité faire un document d'application d'Amoris Laetitia et qui, une des parties importantes, concernait les divorcés remariés.
Vous êtes
et
à Versailles, hein, Patrick Lang.
J'ai participé à ce travail.
Vous êtes au service du diocèse de Versailles.
Oui, fait.
Viviane Munier, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à la rédaction de ce livre, Si tu savais, le don de Dieu, parcours pour les personnes divorcées en nouvelle union? Alors, il se trouve que vous aussi, vous êtes dans le diocèse de Versailles. C'était un hasard, en réalité.
Oui, d'autant plus que je vais déménager. Donc, je vais en Charente-Maritime. Donc,
c'est bien aussi, voilà. La Charente. Alors, qu'est-ce qui vous conduit à vous intéresser à cette question des personnes divorcées remariées dans l'Église catholique?
Voilà, alors en fait, pendant 7 ans, j'ai été responsable du catéchuménat dans mon diocèse, et à chaque réunion, on parlait des personnes divorcées parce que en fait, beaucoup se convertissent avec leur nouveau conjoint et demandent les sacrements, et on leur dit, les accompagnateurs pensaient que c'était, on les emmenait vers une impasse, et en fait. Je crois que dans l'Église, avec Dieu, il n'y a jamais d'impasse. Donc on a commencé à chercher, à travailler avec l'évêque. Et puis après, ça c'est mon histoire personnelle. Hein, et après, accompagner. En fait, moi, c'est le livre qu'on a écrit, co-écrit, sur la pastorale, en fait, l'accompagnement des personnes.
Très concrètement, quoi.
Voilà, très concrètement, comment accompagner les personnes avec différentes rencontres, voilà. Et les autres personnes, alors il y a le père Gérard Berlier, lui il est de Lyon-Dijon, et puis Bénédicte Lussereau, elle est plutôt dans la Manche. Donc on a mutualisé nos expériences pour pouvoir faire écrire ce livre.
Est-ce que, j'ai perdu ma question, ah oui, vous parliez d'impasse. Pourquoi une impasse? Qu'est-ce qui vous donnait le sentiment que vous conduisiez ces personnes divorcées, remariées dans une impasse, en les accompagnant au sein de l'Église?
Moi, j'avais pas du tout justement ce sentiment, mais c'est ce que j'entendais autour de moi. Voilà, c'était souvent Madame Gronchon, je sais pas si vous la connaissez, dans la paroisse, qui disait, mais une personne divorcée, remariée, se présentait à l'accueil, et en fait, elle dit, vous êtes excommuniée, voilà, en fait, c'était un peu tout ou rien, en fait. Donc, nous, on a travaillé pour sortir de ça.
De
cette impasse.
Impasse et cette impression, voilà. Alors Patrick Lang, j'aimerais qu'on dise les choses très, très simplement et très clairement. Officiellement, qu'est-ce qui fait qu'une personne divorcée, remariée ou engagée dans une nouvelle union n'a pas accès au sacrement? Pour quelles raisons?
Jusqu'à maintenant, elle n'avait pas de possibilité d'accès au sacrement. Parce que elle était, selon le droit canon, considérée en situation irrégulière. Et une interprétation de l'année 2000 par une commission romaine a renforcé ce point de vue. Toutes les personnes en situation irrégulière n'ont pas accès à la communion. Il n'y a pas que les personnes divorcées. Celles qui vivent de manière maritale sans être mariées religieusement n'ont pas non plus théoriquement accès.
C'est ça, c'est-à-dire les personnes engagées dans une nouvelle union. C'est la formule un peu.
Pas simplement elles.
C'est-à-dire.
Tout couple qui n'est pas marié est en situation irrégulière selon le catéchisme.
Oui, c'est ça.
Et n'a pas accès à la communion. Et ceux qui ont été mariés, et donc où il y a une infidélité aux engagements pris dans le sacrement de mariage, n'ont pas, selon le droit canon, accès au sacrement, ni au sacrement du pardon, ni au sacrement de l'Eucharistie, ni au sacrement des malades, si ce n'est in articulo mortis, c'est-à-dire au moment de la mort.
Alors quand vous parlez d'infidélité, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Eh bien, il y a eu un engagement sacramental pris dans le cadre du sacrement, et se remarier est objectivement une infidélité à cet engagement solennel du sacrement. Mais le pape François a souhaité que l'on dépasse la logique du droit canon qui enferme dans la même condamnation ceux qui ont provoqué un divorce et ceux qui l'ont subi, ceux qui se remarient parce qu'ils veulent, par exemple, une femme qui veut donner un père à ses enfants. Et puis, c'est la même chose, la même peine pour celui qui quitte femme et enfant pour convoler avec une jeunette. Et on considère que le pape François considère qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, ce qui est une évidence, car le droit canon aboutit à un déni de justice.
Alors, quand vous parlez d'infidélité, père Patrick Lang, on peut prendre le mot au sens premier du terme, c'est-à-dire un mot qu'on a un peu de mal à peut-être à utiliser aujourd'hui, qui est l'adultère. C'est-à-dire que vivre avec une nouvelle personne met la personne divorcée en situation d'adultère, et c'est ce qui fait qu'elle ne peut pas avoir accès au sacrement.
C'est ce, par rapport aux paroles du Christ dans l'Évangile, celui qui se remarie avec une femme qui était déjà mariée, et si elle n'est pas veuve, est en situation d'adultère. Mais l'Évangile ne dit pas simplement cela, il dit aussi que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Autrement dit, l'Évangile est beaucoup plus radical qu'on ne le laisse penser. Mais la question est de savoir si le Christ est un légiste ou s'il nous donne des principes fondamentaux avec lesquels l'Église devra organiser la vie des chrétiens.
Pour expliquer à nos auditeurs la raison également pour laquelle les personnes divorcées, remariées ou qui vivent avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne ne peuvent pas recevoir par exemple le sacrement de réconciliation, c'est parce qu'ils sont en situation de péché permanent. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, on pourrait considérer l'effet de cette manière-là. Mais on pourrait dire aussi que le meurtrier est un meurtrier pour toute sa vie.
Qui lui, par contre, s'il s'engage à ne pas recommencer, peut recevoir l'absolution.
Mais bien sûr. Monseigneur Vesco, l'évêque de Rang, qui vient d'être nommé archevêque d'Alger, a écrit un petit livre très intéressant qui est pour dire on ne peut pas enfermer quelqu'un dans son péché. Il faut savoir si on peut ou non sortir du péché. Dans l'Évangile, il y a la scène de la pécheresse chez Simon. C'est une prostituée de la ville. Et elle montre un grand amour du Christ. Et le Christ la renvoie en lui disant « Tes péchés sont pardonnés parce que tu as montré beaucoup d'amour. » Il ne lui dit pas abandonne ta vie. Elle, c'est sa seule manière de nourrir ses enfants. Le Christ, par rapport à d'autres situations, dira « Va et ne pêche plus. »
Alors,
mais il ne le dit pas systématiquement.
Pour rentrer un peu plus dans les détails.
Il y a des situations dont on ne peut pas sortir.
C'est ça. L'Église.
Quand on a eu trois enfants.
On va y revenir, Patrick Lang.
Un couple reconstitué, on ne va pas abandonner son époux pour se mettre en situation irrégulière et enlever un père à ses enfants.
Ce que l'Église préconise pour être de nouveau en situation régulière, c'est, il y avait une formule à un moment donné qui courait comme ça, c'était de demander au nouveau conjoint de vivre en frère et sœur, c'est-à-dire de renoncer à avoir des relations sexuelles.
Oui, le pape Jean-Paul II avait émis cette hypothèse, n'est-ce pas ? Mais enfin, on sait très bien qu'elle est irréaliste dans la plupart des cas, et puis que quand un couple se reconstitue et désire avoir des enfants, est-ce qu'ils ne sont pas dans l'esprit de l'Église ?
On y revient dans un instant.
Viviane Munier, allez-y.
Oui, Nous, avec Amoris Laetitia, en fait, vous savez, il y a un moment donné où le pape François dit c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'on peut encore, enfin, qu'il faut continuer. Il faut faire son autocritique. Et nous, on l'a fait, c'est-à-dire que tout ce dont parle le père, on l'a travaillé, voilà, parce que ce que dit notre mère, l'Église, est bon, et ce que dit le magistère est bon. Souvent, on le comprend pas parce que on le travaille pas, mais c'est bon. Et en même temps, depuis Amoris Laetitia, en fait, nous avons refait notre conversion, enfin une conversion, c'est-à-dire que on reprend les choses, mais de façon différente. C'est-à-dire que on part de la personne et de l'accompagnement de la personne. Et donc, c'est pas hors sujet par rapport à ce que vous venez de dire, père. C'est que en fait. On marche avec la personne, elle a son GPS qui est pour aller vers le ciel et pour aller vers le Christ, voilà. Et à un moment donné, elle s'est trompée de chemin. Avec Dieu, en fait, on ne demande pas de retourner au point de départ, de tout recommencer. Non, il montre quel est le chemin. Et nous, notre façon de travailler, ce qu'on a compris d'Amoris Laetitia, c'est de partir de la personne, partir de là où elle en est, comme vous disiez, père, parce que il y a des situations complètement différentes. Partir de là d'où est la personne, l'amener vers le Christ. Et nous, adultère, péché, tout ça, en fait, on n'en parle pas, parce que on n'a pas. Qui suis-je déjà, moi, pour juger? Voilà. Mais on sait très bien que plus on s'approche du Christ, plus il y a des choses dans notre vie qui nous sont montrées comme quoi elles ne sont pas dans l'amour. Et donc il y a des choses à guérir, il y a des choses à arrêter, voilà.
En tout cas, ce qui est indiqué sur le GPS, c'est que vous êtes bien sur RCF. On parle ce matin de la place des divorcés et remariés au sein de l'Église. Et vous avez la parole pour participer, pour apporter vos témoignages, pour réagir également à ce que disent nos invités. Est-ce que vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation? Que pensez-vous de la façon dont les personnes divorcées et remariées sont accueillies dans l'Église catholique et de leur intégration? Pensez-vous que la discipline actuelle soit satisfaisante ou bien elle a besoin d'être revue ou mise à jour vis-à-vis des réalités de notre société? On vous attendait maintenant au 04 72 38 20 23. Je répète, 04 72 38 20 23. Vous laissez également vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieu.
Avec nos deux invités, Véronique, qui nous accompagne dans cette première partie, Patrick Lang et Viviane Munier.
Viviane Munier, alors concrètement, vous nous disiez que ce que Amoris Laetitia, l'exhortation apostolique du pape François, a changé dans l'accompagnement des personnes divorcées, remariées ou engagées dans une nouvelle union, c'est la manière dont vous les accueillez. C'est une possibilité de prendre en compte leur réalité, c'est bien ça ?
Il y a un mot qui a sauté dans mon casque. Vous avez dit c'est la possibilité de prendre en compte quoi ?
Leur réalité, la réalité D'accord. de leur vie.
D'accord. Oui. Et en même temps, à la fois on part d'eux. Hein, on marche avec eux. Mais ça n'empêche pas de tenir ce que dit l'Église, le magistère. C'est-à-dire qu'on tient, vous savez, comme dans le psaume, amour et vérité. Je vais vous donner un exemple qui est frappant sur cette façon de faire. C'est qu'on avait deux groupes à deux endroits différents. Et en fait, on explique tout hein, pour que les personnes, en conscience, on les prend pour des adultes qu'elles sont. On explique tout et notamment l'indissolubilité du sacrement de mariage. Et en fait, on est allé à deux dans un groupe pour expliquer. Et en fait, les personnes auraient eu des tomates et des pierres, on se serait fait lapider.
Pourquoi ?
Eh ben parce que en fait, je vais vous expliquer. On est allé rapidement dans le deuxième groupe que l'on suivait depuis le début de l'année. Et là, les personnes nous ont dit, merci de nous avoir expliqué, donné la vérité, parce qu'en fait, au début, elles réagissaient, mais on a dit, mais on se connaît quand même. Est-ce que tu veux qu'on te donne de la guimauve ou
mais alors, qu'est-ce que ça t'explique? Veut dire, ça? Voilà. Ça veut dire que, parce que là, vous avez quand même utilisé tout à l'heure une expression sur laquelle il faut peut-être revenir. Vous dites que les personnes se sont trompées de chemin. Ça veut dire quoi, se tromper de chemin?
Non, alors c'était peut-être pas le bon mot. C'est que dans notre vie, justement, c'est le péché. Hein. Il y a des moments où on veut marcher vers le Christ et puis on fait marche arrière.
Père Patrick Lang.
Oui, je dirais, il y a des situations d'échec. Je ne les jugerai pas automatiquement. Hein. C'est un fait qu'il y a des couples qui sont conduits à se séparer, et après s'être séparés, l'un ou l'autre n'a pas la capacité à rester dans le célibat qui n'était pas sa vocation. Et du coup, on part de cette situation d'échec. On ne peut pas dire que c'est une réussite, puisque ce n'était pas le projet du couple de se séparer. Mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la doctrine de l'Église, c'est désormais celle d'Amoris Laetitia. Hein? Laetitia, c'est une exhortation apostolique qui indique quelle est la doctrine actuelle de l'Église.
Alors, la doctrine actuelle de l'Église, du coup, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? En quoi est-ce qu'Amoris Laetitia a apporté quelque chose de différent, a ouvert de nouveaux horizons?
Eh bien, Amoris Laetitia indique qu'il y a désormais une voie spirituelle, un chemin spirituel, au cas par cas, que les personnes divorcées qui se sont remises en couple peuvent parcourir. Donc il s'agit de les accueillir, de les accompagner, de discerner avec elles quelle est leur situation réelle envers le Seigneur, non pas à travers le droit canon, mais à travers la vérité de leur vie spirituelle. Et à partir de là, de vivre une intégration plus plénière dans l'Église. Parce que tous les baptisés sont intégrés à l'Église et définitivement. On ne peut pas être désintégré de l'Église quand on est baptisé. Et cette intégration peut aller, dans un certain nombre de cas, jusqu'au sacrement du pardon et au retour à la communion dans la discrétion. Cela, c'est désormais la doctrine de l'Église.
Dans la discrétion?
Oui, dans la discrétion, c'est-à-dire de manière à ce qu'il n'y ait pas de scandale. Car ce à quoi tient beaucoup le pape François, c'est qu'on ne dévalue pas le mariage chrétien. Fidèle, indissoluble, fécond. Il y a à la fois une grande miséricorde envers ceux qui ont échoué dans leur vie conjugale, et en même temps une très grande exigence pour valoriser, pour maintenir le mariage chrétien. Les deux ne sont pas opposés.
On va continuer d'en parler, Patrick Lang et Viviane Munier, jusqu'à 10h. On va accueillir Nathalie. Vous êtes à Orléans, Nathalie, bonjour.
Oui, bonjour. J'aimerais juste vous apporter mon témoignage.
Allez-y.
À savoir que moi, je n'ai jamais été mariée à l'Église. Donc, je suis en deuxième mariage. Et lorsque je me suis confessée auprès d'un prêtre, il a refusé de me donner...
l'absolution.
Voilà. Il a refusé, mais par contre, j'avais une enveloppe, il a accepté. Donc, si j'étais pécheresse à ses yeux, qui refusait de me bénir, mais il a quand même pris l'argent d'une pécheresse. Et cela, ça ne me donne pas un doute. Franchement, Jésus, je crois en Dieu et je continue à pratiquer. Et j'ai eu mon bonheur en priant. Et que Jésus, quand il a partagé le pain, il n'a pas dit « tu es pécheresse, ne le mange pas ». Il a donné à tout le monde.
Il y a une forme d'hypocrisie pour vous, Nathalie?
Oui.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup.
Viviane Munier, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nathalie sur ce point?
Ce qui me venait là spontanément, c'est que moi, je, J'ai beaucoup changé depuis que je suis au contact des personnes qui sont en nouvelle union. Elles ont eu souvent beaucoup de souffrances, de blessures, de rejets, sentiments d'exclusion, de culpabilité. Et en fait, en cheminant avec elles, eh bien moi, je suis bouleversée par leur recherche dans la foi. Moi-même, je communie plus de la même façon. Voilà, ce sont de vrais frères et sœurs en Christ.
Mmh. J'ai beaucoup de messages, hein, Véronique, ce matin de la part de nos auditeurs. Je vous les lis parce qu'ils sont intéressants. Patrick nous dit « J'ai divorcé, je vis dans la paix avec une femme que j'aime. Mon exclusion des sacrements m'a permis de comprendre que l'Église n'est pas propriétaire du Christ et des Évangiles. Elle s'est lourdement trompée au cours de l'histoire et ça continue. Le Christ n'est pas venu pour une caste de gens en règle, mais pour tous les hommes. »
Père Patrick Lang.
Mais oui, c'est bien ce que dit le Christ lui-même. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Alors ça ne veut pas dire que le Christ nous invite à pécher abondamment, mais il est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs.
Alors justement,
et nous sommes tous pécheurs.
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que le accéder à la communion est un moyen de nourrir et de soutenir ceux qui sont dans la souffrance et dans la difficulté.
Eh bien, c'est ce que dit le pape François. Ça ne veut pas dire qu'on est en état de communier, quelles que soient les circonstances. Hein ? Par exemple, le Seigneur Jésus nous dit que si nous ne pardonnons pas à nos frères, nous ne sommes pas en état de communier, en quelque sorte. Hein ? Il nous dit si tu ne pardonnes pas à ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère et reviens. Hein ? Donc, ça ne veut pas dire qu'on est toujours en état de communier. Mais, vous avez raison, la communion, c'est aussi une aide, un soutien, une purification de notre cœur et un lieu de grâce pour avancer. La communion n'est pas faite pour les parfaits. Elle est faite pour que les pécheurs puissent avancer avec le Christ et avec le Christ vers notre Père des cieux.
Viviane Munier, finalement, est-ce qu'on est un jour en état de communier, qui que l'on soit et quelle que soit notre situation personnelle?
Ben justement, comme disait le Père, en fait, quand on est dans la souffrance et tout ça, peut-être qu'on a besoin de communier, de recevoir cette force. Mais en même temps, la communion, c'est pas. Enfin, souvent, ceux qui sont divorcés pensent que tout ça, c'est une punition. T'as péché, t'as pas le droit de communier. Mais en fait, la communion, c'est pas du tout une histoire de droit. C'est un don. C'est-à-dire que si c'est au niveau du droit, ben personne ne le mérite.
Donc il y a une limite au don de Dieu.
Eh ben non, justement. En fait, si c'est un don, c'est Dieu qui donne sa vie parce qu'il aime jusqu'au bout. Quand on a reçu un sacrement de mariage, et d'ailleurs il faut le vérifier, je crois que c'est la deuxième partie de l'émission, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent des fardeaux, ces personnes ont été mariées, mais elles n'ont pas reçu de sacrement. Nous, on en rencontre beaucoup comme ça, voilà. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais en même temps, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai tellement de choses.
Donc, je vous disais, Dieu, il y a une limite au don de Dieu, puisque les personnes qui sont ces personnes qui sont la plupart du temps en souffrance, ou d'ailleurs pas toujours, qui ont traversé une période de souffrance, mais qui sont aussi souvent dans un nouveau bonheur, n'ont pas accès à ce don que Dieu leur fait.
Oui, justement. En fait, les dons de Dieu sont infinis. Et alors, vous verrez dans le livre qu'on a écrit, c'est qu'on sort du tout ou rien. Dieu se donne comme il veut, en fait. Il est au-dessus de ses sacrements. Donc, moi, je vois, enfin, dans nos groupes, on a des personnes qui communient, d'autres qui ont choisi de ne pas communier. Et puis d'autres qui ont fait un retour au sacrement. Enfin voilà, il y a toutes sortes. Mais l'autre jour, je parlais avec Aurélie. En fait, elle a obtenu une nullité de son sacrement de mariage et elle avait la possibilité de communier qu'elle disait. Et en fait, elle disait, mais ce que je vis aujourd'hui en ne communiant pas, un sacrifice parce que je veux respecter le sacrement de mariage. Enfin, avant, elle ne savait pas qu'elle n'en avait pas. Mais du coup, elle retourne à sa place, elle y va les bras croisés, elle retourne à sa place, elle a reçu une bénédiction, elle dit « Dieu vient me visiter, je communie ». Donc en fait, quand on va arriver au ciel, on ne va pas nous demander combien de fois on a communié, on va nous demander « est-ce que tu as aimé ?» Donc, en fait, on trouve qu'on se polarise trop sur ça.
On va marquer une petite pause dans « Je pense, donc j'agis ». Vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23. Tout de suite.
Sommes-nous bien conscients que notre pays est en guerre? Et cela depuis 1962. En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, nos soldats n'ont cessé d'être présents sur le terrain et sont ainsi parmi les plus sollicités au monde. Dans les racines du présent cette semaine, Frédéric Mounier et ses invités aborderont ce sujet toujours d'actualité. Depuis 1962, la France est en guerre. C'est ce lundi à 16h.
En ce moment, la boutique RCF vous propose de profiter d'une remise exceptionnelle de 20% sur toute la collection Les Essentiels. Spiritualité, psychologie, prière, famille, philosophie, tous les coffrets à moins 20%. Profitez-en! Renseignez-vous en appelant le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Dans un instant, Marie-Françoise et Paul vont nous rejoindre pour témoigner, parler de leur expérience. Et vous faites comme Marie-Françoise et Paul, vous appelez le 04 72 38 20 23 pour nous parler de la place des divorcés remariés au sein de l'Église catholique. On vous attend avec grand plaisir.
Elle habitait dans les jolis quartiers, là où glissait la glycine, le long des allées désertes et bordées de villas. La ville était vide et c'était l'été. On allait à la piscine ou dans les cafés. Je l'aimais, je crois, tu vois. Et on rentrait le soir que nos adresses nous séparent. Elle habitait là-haut.
Giraud pour vous accompagner sur RCF en ce lundi matin, celui d'en bas.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Quelle place pour les divorcés remariés au sein de l'Église catholique? On se pose cette question ce matin dans Je pense, donc j'agis avec nos deux invités, Patrick Lang et Viviane Mounier. On va tout de suite accueillir Marie-Françoise de Limoges. Bonjour Marie-Françoise.
Eh bien écoutez, bonjour, je suis très heureuse de participer à cette émission. C'est un sujet d'actualité et très intéressant et aussi... qui mérite d'être approfondi, je trouve pas mon terme là. Bon, je tenais à vous dire simplement que ça me concerne pas personnellement parce que je suis mariée depuis 53 ans et j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, on s'aime toujours Et je crois qu'actuellement, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et seulement, ce qui se passe autour de moi, c'est que, bon, vous l'avez constaté, il y a une personne maintenant sur deux qui est divorcée. Et cet accueil dans l'église n'a pas été fait et les gens ont été repoussés. Bien sûr qu'il y a des progrès de fait dans certaines paroisses et ça mérite encore d'ailleurs d'être amélioré. Alors le problème, c'est que dans ces amis que l'on a, il y en a qui ont été abandonnés par leurs conjoints, qui ont des enfants, et du jour au lendemain, oui, ils sont partis, comme vous le disiez précédemment, avec une petite jeunette. Et ces personnes sont durement touchées, parce que il n'y a pas pire trahison que être trahi dans un engagement d'amour. Je crois que c'est la trahison la plus forte, dont on se remet le moins bien. Et ces gens, ces personnes, ces amis, au bout de pas mal d'années, il faut le temps, c'est un deuil, il faut le temps de faire son deuil.
La relation, Marie-Françoise, et puis la souffrance, ça fait partie des nombreux témoignages qu'on reçoit ce matin. Merci beaucoup de nous avoir appelés dans Je pense donc j'agis.
Père Patrick Lang, cette question de la trahison des personnes qui ont été abandonnées finalement par leur conjoint, vous en parliez au début de cette émission, ça c'est une réalité qui ne peut pas être mise sur le même plan une relation disons un peu immature où chacun repart de son côté parce que finalement on a trouvé mieux ou on est déçu.
Oui, on se dit. Vous savez, je crois que le témoignage précédent était très beau, n'est-ce pas? Il s'agit de comprendre. La charité mobilise notre intelligence pour comprendre les personnes. Et on ne vit pas beaucoup la charité, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a en particulier ces personnes qui ont été abandonnées, pour lesquelles il y a eu la trahison d'un amour. Il y a aussi des couples qui se séparent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que la vie a été trop dure. Je vois tel couple ils ont perdu 3 enfants et ça a détruit le couple. Ils ont été dans une situation où ni l'un ni l'autre finalement ne voulait se séparer. Ils se sont séparés parce que la vie était comme ça. La vie est compliquée pour beaucoup de personnes. Et tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour faire face. Certains ont de grandes grâces, de grandes capacités, d'autres
moins. On est quand même fait pour le bonheur, Patrick Lang. Donc si on est malheureux, comment éviter
Oui, je crois qu'on ne peut pas simplifier l'approche de ces questions. Vous voyez, elles sont complexes. Est-ce que quelqu'un qui a été gravement coupable, mais qui, 40 ans, 50 ans après, il prend conscience de la gravité de ce qu'il a fait, mais il a reconstitué un couple, est-ce qu'on ne peut pas le réconcilier, celui-là? Il est proche il s'approche de la mort, et il dit « je voudrais me réconcilier avec le Seigneur avant de mourir ». Ou alors tel autre qui est gravement coupable, mais qui est atteint par un début d'Alzheimer. Est-ce qu'on va le laisser partir dans de ce monde?
Ça peut peut-être même se faire avant ces extrémités, non, la réconciliation?
Prévu par le pape François. Alors, il va pouvoir demander pardon à sa première épouse. Il va pouvoir demander pardon à ses enfants. Il prendra conscience du mal qu'il a fait.
Alors, Patrick Lang, je vous coupe, parce que j'aimerais laisser intervenir Viviane Munier sur cette question.
Voilà, en fait, moi j'ai la moitié de mes amis qui sont divorcés et je pense, comme vous disait votre auditrice, c'est qu'on en connaît tous autour de nous. Et ce qui est important, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est de les accueillir et d'avancer avec eux, comme je l'ai déjà dit. Et nous, on a fait ce livre comme pour le Alpha, vous voyez.
Les parcours Alpha.
les parcours alpha, c'est-à-dire que en fait il faut que des personnes osent la rencontre, osent inviter, et puis après nous on a essayé de faciliter, parce que on se dit voilà, c'est déjà c'est pas facile de parler de ces sujets-là, mais après qu'est-ce qu'on fait? Et nous on a détaillé dans ce livre les différentes rencontres avec quatre temps qui reprennent les temps d'Amoris et Titia, c'est-à-dire l'accueil, des groupes de partage qui avec autour de la parole de Dieu aussi, des échanges, parce que voilà, on discute plus du magistère, on discute de ce que nous dit Jésus. En fait, en prenant des paraboles, des temps où on mange ensemble, des temps où on explique ce que dit le magistère, et puis aussi à chaque fois une liturgie où les personnes sont, et nous-mêmes parce qu'on y participe, on
est bouleversé
de ce que le Seigneur. C'est plus que ça. Enfin, il y a des gestes qui nous ont. Enfin, je pense qu'ils ont été inspirés, qui mettent les personnes, enfin, qui en mouvement en fait. Et on peut dire que tous les témoignages qu'on a, c'est avant, après, c'est on retourne dans l'espérance, on quitte l'exclusion, on quitte l'étiquette de divorcé. Voilà, on est frères et sœurs en Christ.
Paul nous appelle depuis le Limousin au 04 72 38 20 23. Paul, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, moi c'est pour mon témoignage, parce que j'ai suivi toute, j'ai maintenant 80 ans et j'ai suivi toute l'évolution. J'ai commencé il y a 50 ans, j'ai connu mon mari qui était divorcé depuis plus de 10 ans. Sa femme était partie, il n'a plus jamais eu de nouvelles. Et donc nous nous sommes mariés, pas à l'église bien évidemment. Moi j'étais très 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 pratiquante, lui un petit peu moins. Nous nous sommes mariés, nous avons changé de région, nous avons eu deux petits enfants en un an. Disons que ça, pendant ces deux, trois, quatre années, on n'a pas fréquenté l'église, je dirais, on n'a pas le temps. Et puis le fait de ne pas pouvoir communier, c'était terrible. Bon. Et puis, je voulais amener mes enfants à l'église. J'ai voulu me confesser dans une paroisse.
Oui.
À Limoges. Et là, quand j'ai parlé à ce prêtre, on aurait dit qu'il avait entendu le diable.
Parce que vous étiez mariée avec un homme,
voilà,
divorcé.
Avec un divorcé.
D'accord.
Que je n'avais pas à être là dans ce confessionnal et qu'il ne pouvait rien pour moi. Alors,
Paul, on a entendu votre témoignage. Merci beaucoup. Et je me permets de vous couper parce qu'il y a vraiment du monde. Hein. On aura Thierry et Philippe dans un instant. Véronique, voilà, on entend également les réactions de nos auditeurs, les témoignages de terrain.
Patrick Lang, donc c'est double peine, non seulement pour ceux qui sont divorcés, mais pour ceux qui se mariaient avec après et qui, eux ou elles, ne sont pas divorcés.
Oui, mais aujourd'hui, il y a un chemin nouveau. C'est-à-dire que si quelqu'un vient se confesser et me dit « je suis divorcé », je ne vais pas lui dire « je ne vous donne pas l'absolution ». Je vais lui dire « le pape François a ouvert un chemin. Vous pouvez désormais être accueilli et puis rentrer dans un accompagnement. » Alors, un accompagnement personnel. Le pape François insiste sur l'accompagnement personnel. Qui continue. Vous irez voir un prêtre ou un laïc désigné par l'évêque et qui vous accompagnera. Et puis vous discernerez et vous prendrez conscience qu'il y a des pardons à donner, qu'il y a un chemin à faire, des culpabilités à dépasser, etc., une liberté à trouver. Et puis vous pourrez vivre le sacrement du pardon à ce moment-là. Très certainement.
Mais est-ce que en parlant avec cette personne, vous-même, vous n'êtes pas en mesure de discerner l'intention réelle de cette personne et si vous sentez qu'il y a une véritable démarche profonde et sincère de lui accorder le pardon, de lui donner l'absolution?
Non, le pape François s'est opposé, je dirais, au laxisme. Un chemin spirituel, ça ne se vit pas en 5 minutes ou en 10 minutes. Le chemin qui est proposé, c'est un peu celui du catéchuménat. Il peut se vivre en 3 mois, en 6 mois, en 1 an. Il faut du temps pour un travail intérieur, pour un travail spirituel. Le divorce, c'est un échec terrible, une souffrance. Et il y a un travail spirituel pour trouver la paix, pour trouver... Et au terme, eh bien, le pardon peut venir.
Mais est-ce qu'il y a un terme ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est, à un moment donné, complètement sorti de la culpabilité, de la rancœur, de la colère hein, vis-à-vis de l'autre ou des autres, quelle que soit encore une fois la situation dans laquelle on vit. Ça peut être dans une situation familiale vis-à-vis de parents ou de proches, de frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un moment où on sait que ça y est, c'est terminé et que désormais on mérite le pardon, on mérite de communier, on mérite d'avoir accès à... Alors, bon, là, on se focalise un peu sur les sacrements, parce que disons que c'est la partie la plus visible.
Ce n'est pas une question de mérite. Chaque fois que nous communions, juste avant de communier, nous disons « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et nous le disons avec sincérité. Ce n'est pas une question de mérite. C'est le chemin spirituel, il est en faveur de la personne. On l'aide à parcourir un chemin. Il peut être très rapide pour certains, parce que, comme vous le dites, ils ont déjà fait un grand bout du chemin avant d'être accueillis et accompagnés. Alors, à ce moment-là, ça ira beaucoup plus vite, tout à fait.
Thierry, vous êtes à Dijon, on vous écoute. Bonjour. Thierry, est-ce que vous êtes là depuis Dijon au 04 72 38 20 23?
Oui, allô.
Oui, bonjour, on vous écoute. Thierry ?
Oui, allô.
Oui, vous nous entendez ?
Oui, avec difficulté, mais je vous entends.
Bon, on vous écoute.
Alors voilà, donc je souhaitais réagir par rapport au thème de votre émission de ce matin, parce qu'effectivement, je me retrouve dans la situation où je vis avec une personne depuis maintenant plus de 20 ans, qui est divorcée. Et la problématique, c'est que pendant 15 ans, je n'ai pas pu reprendre la communion et me confesser. Et nous avons donc eu dans notre union un enfant qui, lui, par contre, a eu tout un parcours communion, première communion, baptême, tout ce qui s'ensuit. Donc on a toujours vécu dans la foi et nous continuerons toujours. Et je sais que moi, j'ai lu Amaury Laetitia, j'ai énormément aimé, j'en ai même pleuré d'ailleurs parce que j'ai trouvé que c'était véritablement une annonce d'amour du pape sur des personnes comme nous. Mais ce que je dénonce, dans ce principe actuel de l'Église, c'est que malheureusement notre Église se cache la réalité. Parce que les seuls prêtres qui m'ont écouté lors de mes confessions, c'était plutôt les vieux prêtres. Je me suis retrouvé il y a quelque temps devant un jeune prêtre où j'ai parlé de ma situation et la première chose qu'il m'a dit, c'est « je ne peux pas vous donner l'absolution ». Je me suis retrouvé bloqué. Et parce que comme c'est un prêtre que je ne connaissais pas, donc j'étais quand même dans l'obligation de lui dire que je vivais avec une personne qui était divorcée. Il ne m'a pas laissé le temps de finir, parce que j'allais lui dire, mais nous vivons maintenant comme frères et sœurs. Et là, ça a été en fin de compte, il m'a pris pour un militantiste de défense des divorcés, remariés, enfin, ça a été assez catastrophique, ça a été une très très mauvaise expérience. Mais je trouve que effectivement, j'ai entendu beaucoup de prêtres et il y a beaucoup de prêtres qui me disaient qu'effectivement, malheureusement, l'Église n'allait pas assez loin dans cette réflexion.
Merci. Oui, Thierry, merci beaucoup pour ce témoignage. En fait, il nous reste peu de minutes avant la fin de cette émission. On aimerait aussi accueillir un autre auditeur. Mais merci, Thierry, voilà, d'avoir apporté ce témoignage en direct.
Viviane Munier, le témoignage de Thierry, dit que des a priori, enfin des réflexes persistent quand même dans l'Église, malgré Amaury Laetitia.
C'est pour ça qu'il faut se former, hein. Et c'est pour ça que, il faut recevoir de l'intérieur tout ce qui a été dit. Voilà, il faut se convertir, nous, parce que est-ce qu'on veut une église de gens parfaits et, moi, je serais déjà pas dedans, hein. Donc, C'est en fait, on a beaucoup parlé avant à Maurice Laetitia de la miséricorde inconditionnelle, gratuite. Voilà, et la miséricorde fait que, enfin, il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte de notre péché, on pleure, on se met à genoux et on demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond? Il nous dit « Je t'aime ». Je t'aime et tout ce qui est à moi est à toi. Eh ben, je veux dire, à partir de là, voilà, il y a avant, il y a après et toute la vie est belle.
Alors, on a peut-être une note un peu positive pour finir cette première partie d'émission. Philippe, vous êtes à Angers. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon ? Bien sûr, on vous entend très bien et on vous écoute.
Voilà, eh bien, je voulais vous donner un petit témoignage. Voilà, je suis chrétien, donc, et j'ai rencontré donc un couple ami qui était divorcé et marié. Il me partageait il y a une quinzaine d'années donc cette souffrance de ne pas pouvoir profiter de l'Eucharistie et de la réconciliation. Il me disait, vous vous rendez compte, le pire criminel, il a le droit au pardon, nous on n'y a pas droit. Et c'était vraiment une boule pour eux au niveau de leur cœur et de leur esprit. Et il m'avait partagé ça. Et ils avaient rencontré le prêtre de leur paroisse en leur disant, en leur racontant leur histoire. Et le prêtre avait dit, bah, écoutez, vous venez à l'Eucharistie, vous croisez les bras et je vous donnerai la communion. Et c'est comme ça qu'il le faisait, donc même il gardait cette souffrance. Est arrivé un jour l'impensable pour eux, ça les a bouleversés complètement et ça a changé vraiment leur regard sur l'Église. Et c'est que au milieu de l'Eucharistie, quand la consécration a eu lieu, le prêtre, qui est un prêtre de Tours, qui est un prêtre très connu en plus, enfin maintenant qu'il est décédé je crois, est arrivé, et plutôt que d'aller donner la communion devant les frères et sœurs, il a été directement devant eux, il leur a donné la communion. Il l'a fait une seule fois. Et ça les a bouleversés complètement.
Donc, devant l'ensemble de la communauté paroissiale.
Tout à fait. Et ça rejoint ce que Saint Ignace dit de Loyola, hein, c'est que la conscience morale est au-dessus de la loi. Si bien qu'on peut, un prêtre peut très bien avoir un souffle de l'Esprit Saint qui lui pousse de faire quelque chose qui n'est pas forcément selon la loi. Et ça rejoint un petit peu ce que Jésus... Quand il reçoit cette pécheresse, il a un regard qui ne juge pas, mais il accueille.
Merci.
Et nous, notre regard dans l'Église, c'est juste 30 secondes, j'ai fini. Regard dans l'Église, on a retrouvé le regard du Christ sur les frères et sœurs. Et moi, je dis la chose suivante, c'est que ce couple de divorcés mariés donc, a donné a été accueilli dans cette paroisse et il a fait des missions extraordinaires. Il a organisé des cartes pour aller voir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et donc, à travers vraiment ce chemin que l'Église propose, d'abord d'accueillir ses frères et sœurs, il y a quelque chose à faire.
Merci,
voilà.
Philippe.
À entrer dans le regard de Jésus.
Merci voilà. Pour ce témoignage dont je pense donc que j'agis. Je vous avais dit, hein, Véronique, ça allait être positif pour finir cette émission.
Positif, enfin, il faut voir, parce que Père Patrick Lang, là, on n'est pas du tout dans la discrétion dont vous parliez au début de cette émission, pour ne pas, c'est le mot que vous avez employé, scandaliser la communauté. Est-ce que ce prêtre a transgressé quelque chose en faisant ce geste?
Je ne crois pas, je pense qu'il connaissait sa communauté et qu'il savait que ça ne la scandaliserait pas. Car beaucoup de chrétiens sont prêts à comprendre que le changement préconisé par le pape François était nécessaire. Et l'allusion qui a été faite par votre auditeur sur la conscience est évidemment centrale. C'est-à-dire, on recommence à faire aussi confiance à la conscience du prêtre et à la conscience du chrétien. Et là, on rejoint le grand saint Thomas, bien sûr, qui accordait une grande importance à la conscience personnelle.
Viviane Munier, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'on peut aller et il faut aller plus loin que ce que Maurice Laetitia propose? Est-ce qu'il y a encore un chemin à parcourir ou bien on a tout ce qu'il faut là? Concernant les personnes divorcées et remariées au sein de l'Église catholique, bien sûr.
J'allais dire avec l'Évangile, on a tout ce qu'il faut. Mais un chemin, oui, moi je trouve que pour aujourd'hui, si on ose l'accueil, eh bien, c'est déjà pas mal. Après, peut-être que le deuxième chemin, ce serait que nous-mêmes, on se reconnaisse pécheurs et que En fait, ce qui est dans l'Église, ce qu'il faudrait peut-être changer, c'est qu'on fait tous pareil alors qu'on en est tous à des étapes différentes. Donc ce serait peut-être d'accepter le chemin de chacun, là où il en est, et puis sans se juger,
avec un discernement personnel et pastoral approprié, finalement, pour reprendre les mots de Amaurice Laetitia. Et pour
parce
nous
que
tous.
Personne ne peut se substituer à notre propre conscience. Et en même temps, il faut l'éclairer, cette conscience.
Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Il y aurait encore évidemment beaucoup, beaucoup à dire sur cette question qui reste quand même assez sensible. Viviane Munier, vous êtes co-auteure du livre « Si tu savais le don de Dieu », parcours pour les personnes divorcées en nouvelle union. C'est paru chez Artege. Ce livre a été écrit avec deux autres personnes. Et puis Patrick Lang, vous êtes jésuite et vous êtes, vous, l'auteur aux éditions Fidélité du livre intitulé « Divorcé remarié, de l'exclusion à l'intégration ». Encore un grand merci à tous les deux.
Merci beaucoup Véronique.
Merci Melchior.
Pour cette émission dans un instant.
Bonne suite.
On va poursuivre sur cette lancée puisqu'on va parler du rôle des officialités dans certains diocèses et qui permettent notamment d'obtenir la nullité de mariage. Là aussi, vous avez la parole pour apporter vos témoignages en direct au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Et puis par téléphone, par mail, pardon, à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.